la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagé.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Le 4 décembre 2024, Brian Thompson marche sur le trottoir en direction de l'hôtel Hilton, à New York, où il doit assister à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de l'entreprise United Healthcare, le plus gros assureur de santé des États-Unis, dont il est le PDG. C'est alors qu'un individu cagoulé marche en sa direction et lui tire dans le dos à 3 reprises. L'homme meurt sur le coup et une traque s'organise pour retrouver l'auteur de cet assassinat. Le portrait d'un homme cagoulé est largement diffusé et c'est Luigi Mangione, un ingénieur de 28 ans, qui est arrêté. Lors de son interpellation, la police aurait trouvé dans son sac à dos l'arme du crime ainsi qu'un manifeste de 3 pages qui livre une charge virulente sur le système de santé américain et les dérives du capitalisme. C'est aujourd'hui, lundi 1er décembre, que se tiendra sa première audience devant un tribunal de New York sur la recevabilité de ses preuves. Une audience qui sera à coup sûr assidûment suivie à travers le pays, tant l'affaire a pris une dimension sociale et politique. Car l'histoire tragique de Brian Thompson n'est pas seulement celle d'un père de famille mort de bon matin sur le chemin de son travail. C'est aussi l'histoire d'un directeur d'entreprise qui se rendait à une réunion qui allait célébrer les excellents résultats financiers de son entreprise d'assurance santé, qui s'est spécialisée sous sa présidence dans le refus de remboursement de soins. Les 3 douilles retrouvées à côté de son corps avaient pour inscription les mots « delay »,« deny » et « dépose ». 3 mots qui signifient « retarder »,« contester » et « destituer ». Outre-Atlantique, la référence à l'attitude des compagnies d'assurance est évidente. Dans un pays où il est impossible de bénéficier de soins sans souscrire à un contrat assurantiel auprès de compagnies privées et très lucratives, 29 millions d'Américains dépendent du bon vouloir de United Healthcare pour voir leurs soins, y compris vitaux, pris en charge par cette assurance qu'ils paient fort cher tous les mois. Luigi Mangione est alors devenu le symbole de la colère des Américains contre leur système de santé et les assurances privées qui rechignent à rembourser les soins. Justicier pour les uns, assassin sans vergogne pour les autres, la cagnotte pour financer sa défense a recueilli plus $1 million en quelques semaines. Mais alors, comment se fait-il qu'un meurtre, évidemment moralement injustifiable, puisse devenir acceptable voire estimable lorsqu'il se décide au travers de PowerPoint, et bien que cela concerne des milliers de personnes? Une violence omniprésente que l'on peut étendre à des degrés divers à l'ensemble du monde économique et qui s'exerce partout à travers le monde, que ce soit aux États-Unis ou même en France. Dans ce contexte, je vous recommande un ouvrage, celui de Nicolas Framont, « San Luigi, comment répondre à la violence du capitalisme » aux éditions Les Liens qui Libèrent, qui pose cette question de la violence. Et surtout, face à cette violence du monde capitaliste, ne devrions-nous pas hausser le ton et changer de tactique? Et si oui, jusqu'à quel point et à quel prix? Au programme ce soir dans la matinale, nous avons le plaisir de recevoir le sociologue Michel Kokoreff. Spécialiste des contestations sociales et des violences policières, il reviendra au fil des questions de Mathias sur les récentes interrogations des sciences humaines et sociales quant aux révoltes des quartiers populaires de 2005 à nos jours. Entretien qui se terminera avec le flash info de Tom ainsi que la chronique actu de Violette. Dans notre Zoom du jour, Farah recevra M. Nguyen Duc Quang, le président de l'Association des scientifiques et experts vietnamiens, à l'occasion de la semaine du Vietnam Cinéma. Et enfin, cette matinale se conclura avec une intervention de Fabrice, alors ne perdons pas une minute de plus. Tout de suite, c'est l'interview du jour.
La matinale de...
Michel Kokoreff, bonsoir. Vous êtes professeur des universités au département de sociologie et d'anthropologie de l'université Paris 8. Votre travail de recherche porte notamment sur les métamorphoses des formes de contestation sociale, sur les politiques pénales ainsi que les violences policières, mais aussi l'usage des drogues, sur leur trafic et les politiques autour de celles-ci. Vous vous intéressez donc à tout cela en faisant notamment des observations ethnographiques dans les contextes urbains, et plus précisément ce qui est tantôt appelé quartier populaire ou bien ghetto urbain. Vous avez publié plusieurs ouvrages tels que Spectre de l'ultra-gauche aux éditions L'Œil d'Or en 2022, ou encore La Diagonale de la Rage, une histoire de la contestation sociale de 1968 à nos jours. Et plus récemment, vous avez participé à un colloque de sciences humaines et sociales sur les révoltes des quartiers populaires de 2005 à nos jours, au campus Jourdain à Paris. Et vous êtes avec nous ce soir pour en parler, avec notamment Mathias, qui est venu vous poser quelques questions.
Salut à tous, bonjour Monsieur Michel.
Bonjour Mathias.
Alors on va commencer direct. Selon vos recherches sur le terrain, surtout par rapport à ce que vous avez écrit sous ce magnifique livre qui est intitulé « Émeute », quelle est la différence entre les révoltes sociales, les insurrections et les émeutes ?
Ah, ça c'est une colle, ça, pour commencer, mais effectivement c'est une bonne question. On sait qu'il y a une polémique, il y a une controverse parmi les militants, avec des chercheurs, des journalistes, sur la dimension politique des émeutes et ou révoltes. Moi, il me semble que les deux termes sont compatibles de ce point de vue-là. Ils énoncent la même chose, c'est que les émeutes ont toujours une signification politique de aussi loin qu'on remonte. On peut remonter très loin, au 13e, au 18e, au 19e siècle, évidemment au 20e siècle, je sais pas, Watts, 1965 par exemple. Mais révolte, évidemment, renforce cette dimension politique, sauf que là où j'ai mon petit bémol, et que c'est pas que je tiens particulièrement au terme d'émeute, c'est que la révolte quand même a un caractère organisé, durable, avec des leaders, avec des revendications. C'est pas le cas de l'émeute. En tout cas, historiquement, l'émeute, elle est spontanée, elle est sporadique, elle n'a pas de mot d'ordre, elle n'a pas d'organisation. Donc c'est ce qui fait aussi son côté peut-être plus sauvage. Bon. Mais après, émeute, révolte, même insurrection, en fait tout ça, ça fait partie un peu d'un même champ où il y a du conflit. Peut-être le mot-clé, c'est antagonisme.
Mais justement, vous dites comme quoi qu'il y a les semblables. Mais on a la sensation, quand on entend les policiers dans les médias, lorsqu'on parle d'une problématique en termes de violence dans les quartiers, il y a souvent une différence d'énonciation. Lorsqu'on parle, par exemple, en 2005, pour Bounaï Ziyed, ou Naël, très récemment, en 2023. Mais par contre, les mêmes énonciations ne sont pas les mêmes pour les Gilets jaunes, notamment ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie ou en Martinique pour la vie chère. Donc comment vous expliquez cette différenciation de mots ou de regards?
Bon, alors il y a les époques changent, effectivement on peut considérer que émeute, ça disqualifie, ça stigmatise, c'est associé à casse, destruction, ça fait des émeutiers, des délinquants. Bon, donc on peut à ce moment-là préférer le terme de révolte, qui semble plus neutre, peut-être plus valorisant. Bon, après ce que vous énoncez, moi ça me fait quand même beaucoup penser à un concept d'un grand philosophe qui s'appelait Michel Foucault et qui parlait de la gestion différentielle des illégalismes. C'est-à-dire en gros, il disait la prison, ça sert pas à punir, ça sert à différencier, hiérarchiser, qualifier des conduites indisciplinées, parfois à mettre l'accent sur certaines et parfois à en tolérer d'autres. Que les gens fraudent le fisc, tout le monde s'en fout. Que par contre Mohamed vole une pomme chez l'épicier ou chez ou un vêtement chez Zara, ça par contre c'est révoltant. Bon. Donc ça traduit un traitement inégal. Effectivement, pour les uns, ça va être des violences urbaines, Mais si c'est les paysans, éventuellement, là, on va utiliser des mots un peu plus soft, disons.
C'est ils s'en foutent ou c'est une stratégie de communication pour éviter de regarder le problème à la racine.
Ah, c'est pas qu'une stratégie de communication, c'est une stratégie de pouvoir. C'est gouverner, c'est diviser, et donc c'est hiérarchiser, c'est différencier. Alors ça passe par les mots, la communication, j'ai bien compris que c'était important aujourd'hui, mais ça passe aussi par des actes, ou par exemple au pénal, on va pas retenir les mêmes griefs contre un casseur des cités ou un petit vendeur de shit et quelqu'un qui est soupçonné pour, je parle pas d'un président de la République, ex-président de la République, hein, bon, mais qui aurait commis des malversations financières. Donc c'est les mots, mais c'est aussi des gestes. Et ce que ça traduit, c'est que bah oui, on vit dans une société où les inégalités sociales, elles sont structurelles.
Peut-on dire que c'est utile pour la politique de l'énoncer ainsi, surtout lorsqu'on regarde depuis les années 2000, on passe à 2005, Bounaïdi Yedd, 2006, le CPE, 2007, les violences urbaines qu'on a eues à Villiers-le-Bel, 2009, les affrontements au sud du mouvement LKP, en passant par les Gilets jaunes, en passant par Théo, Adama Traoré, je dirais même la Martinique pour la vie chère, la Nouvelle-Calédonie pour la représentation de l'indépendance, jusqu'à Naël, en fait.
La Réunion, pour rajouter.
La Réunion, on peut rajouter ainsi. En fait, on a, depuis 2000, on succède à plusieurs types de violences liées d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on peut dire clairement la stratégie qui est de dire de diminuer ou peut-être d'utiliser à des fins politiques où on est actuellement. Parce que de génération en génération, ça continue.
Alors moi, peut-être j'inverserais, mais ce n'est pas contradictoire du tout avec ce que vous dites, le raisonnement. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une révolte. Déjà, le monde va mal. Les inégalités n'existent pas depuis un an, deux ans, trois ans. Elles sont structurelles, mais elles s'accentuent. Bon, et ça se traduit par des révoltes, par des émeutes, par des insurrections. Bon. Qui prennent des formes différentes. Il n'y a pas qu'en France, c'est un mouvement beaucoup plus large. Bon, et par rapport à cette onde de révolte, de colère sociale, qui, il faut le noter, ne passe plus forcément par les syndicats et les partis politiques. Bon, il y a une instrumentalisation du pouvoir de ces révoltes et/ou émeutes. Bon, qui désigne des ennemis. Bon, et qui joue sur la corde sensible de l'insécurité, qui, au fond, un gouvernement, rien ne raffermit plus un gouvernement qu'une bonne émeute, disait Victor Hugo. Bon, hein. Et effectivement, ça lui permet de montrer des muscles et ça lui permet d'instaurer un gouvernement de la peur. Bon. Et c'est un peu ce qui nous caractérise aujourd'hui, la Troisième Guerre mondiale, un certain nombre d'événements. Donc, mais je crois qu'on ne peut pas séparer les deux. C'est-à-dire, à la fois, il y a de la colère, il y a de la révolte qui prend des formes différentes et qui fait que les gens ne sont pas complètement apathiques et prêts à supporter tout. Et en même temps, il y a une instrumentalisation du pouvoir, des médias, notamment dans un régime de monopole avancé, comme en France, mais aussi ailleurs, qui désigne des ennemis, des publics à risque. Bon, qui peuvent être des jeunes d'ascendance immigrée, comme il y a eu à un moment une espèce de désignation des drogués, des toxicos comme un quasi-ennemi public. Bon, et effectivement, ça, il faut malheureusement constater que cette propagande, on va pas citer de nom de médias, voilà, qui
donc c'est utile pour
la
politique.
Elle marche.
En gros, c'est ce qu'on est en train de dire. On peut dire clairement que c'est utile pour la politique qu'il y a ces violences là. Et qu'on essaie de la diminuer au lieu de la regarder en profondeur.
C'est-à-dire que tout le monde sait bien qu'un politique, il a peu de cordes à son arc. Il en a 4 ou 5. Bon, et la sécurité, la peur, c'en est une de cordes décisives. On se rappelle du papy de l'Oise, par exemple, en 2002, avant le premier tour, qui s'était fait dévaliser et dont les images avaient tourné en boucle. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Premier tour, Le Pen au deuxième tour. Qualifié d'emblée et pour la première fois au deuxième tour. Donc c'était de la com, mais aussi, c'était aussi de la politique. Et c'est bon, on peut le déplorer, mais ça a été efficace. Bon, alors ce qui change peut-être, c'est que, alors on en reparlera peut-être, c'est que en 2024, 2023, suite à la mort de de Naël, dans les circonstances qu'on connaît, avec ce buzz de la vidéo, il y a eu une vraie émotion collective, pas simplement en France, mais dans le monde entier. Bon, et bon, ça conduit quand même, au moins au début, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, à une certaine réserve, à une certaine pudeur. Bon, voilà. Après, ils ont réengainé sur leur langage un peu, voilà, de guerrier militaire. Mais ça change un peu.
Si je peux me permettre, vous avez parlé de quelque chose. Merci. Vous avez parlé de langage et de vidéo. Très intéressant. Des Naël, il y en a d'autres. On peut le dire. Mm-hmm. Là, ce qui a différencié, c'est qu'on a vu du début jusqu'à la fin une action amenée par la vidéo, notamment par les réseaux sociaux. Et donc, on dit que l'émotion a pris nationalement, mais sans la vidéo. Est-ce que ça aurait pas été juste un incident comme d'autres, comme notamment le jeune qui est mort à Aubervilliers?
Vous connaissez la phrase de Will Smith qui disait « Le racisme n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on le filme. Hein » Bon, vous allez m'amener là-dessus. Bon. Je pense que quand même, il faut accorder un pouvoir à l'image parce que c'est le cas de dire, il y a pas photo et le flic en question, qui d'ailleurs a bénéficié d'un fort soutien de solidarité et est devenu millionnaire, ça en voyant à votre introduction, mais bon, il a été quand même mis en détention provisoire. Bon, dans d'autres cas, les policiers, par exemple, dans le cas de Zied et Bouna et du troisième dans le transformateur électrique n'avaient pas été mis en détention. Mais on ne peut pas non plus considérer qu'il n'y a pas eu d'émotion après ce qui s'est passé et le 27 octobre 2005 et après aussi le fait que les CRS ont tiré à la grenade lacrymogène sur la mosquée Bilal à Clichy. Bon, il n'y avait pas forcément d'image, mais il y avait de l'émotion. Bon, après, l'émotion, elle est de courte durée. On fait des promesses, on se dit que oui, il faut changer les politiques publiques, et puis tout ça se perd un peu dans le sable jusqu'à la prochaine fois. Bon, l'émotion n'est pas suffisante.
Merci Michel Kokorev pour cette réponse. C'est l'heure de prendre une petite pause musicale avec Creep de Radiohead.
Thank you. whatever you want. You're so fucking special.
C'était Creep de Radiohead.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Mathias, vous êtes toujours en compagnie de Michel Kokoreff pour parler des révoltes.
Oui, d'ailleurs les auditeurs, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Restez accrochés, c'est intéressant, restez. Donc, alors Michel, comme on disait tout à l'heure là, on est passé à l'ère des vidéos sur les événements qu'on rencontre en France. Est-ce que ce n'est pas les prémices d'une problématique, ou même peut-être même du fake news, ou même la réalité, mais qui est difficilement supportable?
Non, ce qui, à mon avis, effectivement, on est rentré dans une ère des émeutes, sans doute depuis le début du troisième millénaire. Ça a été constaté à de nombreuses reprises dans de nombreux pays. Vous l'avez un peu rappelé. Bon, il y a en gros, effectivement, un capitalisme extractiviste absolu qui saccage tout, des conditions presque de qui relèvent du néo-esclavagisme. Bon. Des violences qui sont systémiques, qui sont aussi bien policières et aussi raciales. Bon, donc il y a tous les ingrédients pour que ça explose, voilà. Et la vidéo, nos chères machines à communiquer, bon, effectivement, c'est un support, mais en aucun cas c'est une cause. C'est un support qui démultiplie la visibilité de ce qui se passe dans la rue un peu partout. Bon, mais pour autant, ce qui est fondamental, c'est que à un certain moment, les gens craquent. Les gens disent non, là, on fait l'émeute ou on se révolte ou on manifeste ou c'est plus possible. Et à la limite, on pourrait presque s'étonner que ça soit pas plus souvent le cas.
Mais par rapport à votre expertise de terrain. Est-ce que vous pensez qu'on aura une deuxième histoire portée sur Naël, qui est semblable à Naël, en termes de violence, en termes peut-être même de bavure, ou on aura peut-être un autre gilet jaune, mais plus violente, plus organisée?
Bon, les sociologues ne sont pas tellement bons pour lire dans la boule en cristal, mais je veux dire, les émeutes ou les révoltes, parce que je note bien que vous adhérez à ce changement de vocabulaire, bon, ça fait 40 ans que ça dure. Et évidemment, des Naëls, il va en avoir d'autres. Partout, je pourrais vous parler de la situation à Saint-Denis, où là, c'est même plus la police nationale, c'est la police municipale qui joue au cow-boy, qui est surarmée.
Est-ce que ce n'est pas un risque?
Mais évidemment, c'est un risque. Mais je veux dire, l'histoire continue. C'est pas. Mais est-ce que ça sera plus que ce que ça a été, ou est-ce qu'on ira vers plus de violence? Bon, c'est dangereux aussi ce discours-là, parce que c'est le discours du Figaro, c'est le discours de CNews. C'est oui, les jeunes, ils sont de plus en plus violents, de plus en plus tôt, etc. Bon, moi, c'est pas comme ça que je regarde les choses, que
est-ce
je constate.
Est-ce qu'il y a pas aussi un inverse? Est-ce que les policiers ne sont pas moins formés?
Alors justement, ce que j'allais dire, c'est ce que je constate, c'est que c'est plutôt notamment la police qui est de plus en plus violente. On l'a vu en 2018. Bon, alors est-ce qu'elle était bien formée dans les années 60, 70, 80? Je suis pas sûr non plus. Mais est-ce qu'elle est insuffisamment formée aujourd'hui? Ça c'est sûr. Alors que le niveau d'éducation générale a augmenté, que les gens connaissent un peu plus leurs droits et que éventuellement ils peuvent filmer des interventions qui sont louches. Comme on dit.
Mais, voilà. Mais est-ce qu'on peut parler de seulement de manque de formation chez les policiers, ou on peut aussi dire qu'ils ont un regard beaucoup plus politisé et ouais. Beaucoup plus émotionnellement atteint de ce qu'ils peuvent vivre le jour, enfin, tous les jours, avec ce regard de vengeance?
Oui, c'est vengeance, je sais pas, mais c'est multifactoriel. Bon, dans les années 50, les policiers, les syndicats majoritaires étaient communistes. Ça laisse rêveur. Dans les années 70-80, ils étaient socialistes. Bon, aujourd'hui, ils sont à deux doigts du Rassemblement National.
À deux doigts ou ils sont dedans?
Ils sont à deux doigts ou ils sont, derrière un syndicat majoritaire, Alliance, qui est clairement d'extrême droite. Bon. Ça veut dire qu'ils sont. Ça veut pas dire forcément qu'ils sont dans la vengeance, mais ça veut dire qu'effectivement l'axe de gravité c'est voilà considérablement développé. Mais en même temps, on pourrait dire que les policiers ils suivent un peu la société française, parce que la société française elle est prête à élire un président de la République ou une présidente de la République qui pactise et qui dîne avec les fascistes. Hein. Bon, donc je veux dire, non mais ça n'excuse pas les policiers, mais ça montre qu'il y a une certaine cohérence. Bon, mais là il y a un vrai sujet, on le sait bien. Bon, le manque de formation, le manque d'encadrement, le turnover dans les grandes métropoles, un surarmement qui est donné à tous, alors qu'on pourrait prévoir que par exemple des jeunes policiers soient pas équipés de d'armes létales, une absence de connaissance des codes des jeunes, en particulier dans les cités et les quartiers populaires. Là, il y a un gros travail de formation à faire. Bon, et il y a une institution policière qui est bloquée, qui maintient le statu quo, qui soutient un pouvoir qui est lui-même fragile. Donc, on ne sait pas qui soutient l'autre. On ne sait pas si la police défend le gouvernement ou si, en fait, elle défend une espèce de fragilité, fragilité institutionnelle. Et je remarque que voilà, il y a des films qui sortent. Il y avait Un pays qui se tient sage de David Dufresne. Il y a un très bon film qui est sorti sur une affaire qui est menée par l'IGPN avec Léa Drucker. Je crois que c'est Dossier 137. Bon, il y a toutes sortes de matériaux, bon, qui montrent que quand même c'est un sujet. Bon, pour l'instant, on n'avance pas.
Pendant que j'y pense, il y a un sujet qui me tient à cœur. Je voudrais savoir, selon vous, quels sont les points communs entre 2005, 2007. C'est pire, ok. En passant par les gilets jaunes. Passant par les événements de la Martinique par rapport à la vie chère, la Nouvelle-Calédonie et notamment les émeutes pour Naël. Quels sont les deux points communs que vous pouvez me citer dans tous ces événements ?
Bah, d'un côté, y a la colère et un désir de justice. Hein ? Pas de paix, pas de justice, comme disait l'autre. Bon, et d'un autre côté, on voit bien que les violences d'État ne sont pas des violences résiduelles, ne sont pas le fait de pommes pourries, mais sont systématiques. Et ce qui renforce le sentiment, le désir de justice, c'est que pour la plupart, ces violences d'État sont impunies. Bon, ça fait longtemps que ça dure, mais et donc on voit que c'est une boucle. C'est-à-dire que le désir de reconnaissance, de justice, qui se heurte à des violences policières qui sont elles-mêmes impunies et qui favorisent forcément la rage, la colère, le ressentiment, éventuellement des pratiques d'autodestruction, mais aussi des nuits d'explosion. Donc c'est une sorte de boucle, j'ai bien répondu ?
Ouais, je m'attendais peut-être à on va dire, une justice sociale. Mais bon, vous y allez un peu dans ce sens, plus ou moins, et une reconnaissance. Surtout
oui,
ces deux-là, parce que les échauffourées, lorsqu'on a pu voir par le biais de notre travail, on voit bien que lorsqu'on pose la question, on ressent quand même ce besoin de reconnaissance, notamment dans les quartiers. Mm. On ressent aussi ce besoin de justice sociale beaucoup sont au regard de justice sociale, notamment, vous avez bien cité, de punir les policiers qui font une bavure au lieu de faire semblant de les mettre en prison. Ouais. Faire semblant. Il y a ce côté aussi par rapport pour la Martinique et la Nouvelle-Calédonie. Ah ben, pareil, hein, c'est toujours cette justice sociale parce que la vie chère, bon, ben, lorsqu'on fait la comparaison avec les prix en France. Il y a un peu pour la population, surtout ce qui nous est revenu, c'est ce foutage de gueule, si je peux me permettre. Mmh. Donc voilà.
Ouais, je suis d'accord. Mais par exemple, si on prend Marseille, ce qui s'est passé à Marseille est tout à fait... les mots me manquent. Bon, mais c'est une tragédie. Bon, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'il y a un jeune qui perd la vie. Il faut vous rappeler que quand même à Marseille, en 2023, il y a eu 49 morts. Bon. Mais est-ce que le problème est sécuritaire ? Est-ce que le problème est simplement policier ou est-ce que le problème est social ? Bon. Et quand on connaît un peu la situation à Marseille, et pas que dans les quartiers nord, dans d'autres endroits de la ville, bon, on sait bien que les cités sont complètement abandonnées, sont dans un état de délabrement, les poubelles ne passent plus, la moitié de la population est au chômage, il y a un taux de famille monoparentale qui est extrêmement élevé, et où notamment les maires font ce qu'elles peuvent, mais sont par ailleurs accusées de démission parentale, donc c'est le comble. Bon, or, les causes, alors, il y a effectivement sans doute un désir de justice sociale, mais il y a aussi des causes sociales qui ne sont absolument pas abordées par les gouvernants, mais aussi par une partie de l'opinion publique via des médias. Et donc forcément, on s'étonne après que les mêmes causes produisent les mêmes effets.
C'était un peu pareil pour les gilets jaunes. Au final, gilets jaunes, il y a différents types de populations, mais la finalité, c'est qu'il aurait fallu des violences pour être écouté. Donc au final...
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est le grand discours de Martin Luther King en 67, voilà, qui disait les émeutes raciales sont le fait des gens qui ne sont pas entendus et qui portent par la violence de rue, je dis bien, c'est pas une apologie de la violence, hein, mais c'est instrumental, c'est un moyen, par la violence de rue, il s'agit de se faire entendre d'une société qui... en fait, vit dans son confort, confine les pauvres et les Afro-Américains dans les ghettos et ne veut pas entendre parler des inégalités structurelles, de la ségrégation et du racisme. Donc, dans ce sens-là, les émeutes et où les révoltes sont toujours politiques, elles sont une manière de donner de la visibilité à ce qui n'en a pas et de donner aux sans-voix une voix. Bon, mais on voit bien que c'est pas suffisant, que ça ne règle rien, que notamment, bon, c'est très bien d'inviter des sociologues et des chercheurs, mais ça serait aussi bien d'inviter des gens des quartiers populaires. Quand je dis vous, c'est pas forcément ici, mais plus globalement les médias. Donc, on sent bien qu'il y a quand même une limite dans donner la parole aux sans-voix. Mais pourtant, il s'agit bien de ça, je suis tout à fait d'accord.
Je vous remercie pour votre retour.
Eh ben, je vous en prie, merci à vous de votre invitation.
Merci Michel Kokorev d'être venu à notre micro. On rappelle votre dernier ouvrage paru, Émeute, aux éditions Anamosa. Et tout de suite, c'est l'heure du Flash Info de Tom.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir Théophile, bonsoir tout le monde. L'actualité en France aujourd'hui, c'est surtout la visite de Volodymyr Zelensky, accueilli à l'Elysée ce lundi par Emmanuel Macron pour faire le point sur les négociations de paix initiées par les États-Unis entre la Russie et son pays, l'Ukraine. Les deux pays sont en guerre depuis février 2022. La rencontre a été l'occasion d'un entretien bilatéral entre Zelensky et Macron, d'un déjeuner de travail, puis d'une déclaration à la presse, alors que le conflit continue encore à l'est de l'Europe. Et puis on en sait plus sur l'incendie qui a fait 5 morts et un blessé en Meurthe-et-Moselle. Le feu est survenu dans la nuit de samedi à dimanche à 9 maisons au sud-ouest de Nancy. Le sinistre a touché un bâtiment comprenant un magasin au rez-de-chaussée. Deux parents de 59 et 60 ans, un de leurs fils de 16 ans et deux de ses amis de 16 et 20 ans aussi sont décédés. 70 pompiers ont été mobilisés alors que la source du brasier reste toujours totalement inconnue. À l'étranger maintenant, le Niger annonce mettre son uranium sur le marché international, actant notamment la rupture avec le groupe français Orano. Le chef du pays, le général Abdourahmane Tiania, a revendiqué le droit légitime du Niger de disposer de ses richesses naturelles, de les vendre qui souhaite acheter dans les règles du marché en toute indépendance sur la télévision d'État Télé Sahel. Le groupe Orano est un groupe français spécialisé dans l'uranium, le combustible nucléaire. Au Niger, Orano détenait jusqu'alors des participations majoritaire dans plusieurs entités exploitant des mines de gisements d'uranium. Enfin, dans le conflit qui l'oppose à Donald Trump, Nicolas Maduro, le président du Venezuela, a dénoncé une agression en préparation de la part des États-Unis. Pour rappel, ces derniers ont bafoué le droit international en frappant des bateaux vénézuéliens en mer des Caraïbes à de très nombreuses reprises lors des derniers mois. Ils les accusent, selon eux, de transporter de la drogue vers le nord du continent. Pourtant, Donald Trump a confirmé hier avoir eu un échange téléphonique avec Nicolas Maduro, confirmant une révélation du New York Times datant de vendredi. « Je ne dirai pas que cela s'est bien ou mal passé », a commandé le président américain. Et puis pour finir en sport, ce soir, c'est la deuxième journée de qualification à la future Coupe du Monde de basket au Qatar en 2027. La France affronte la Finlande à l'extérieur après avoir battu la Belgique il y a 3 jours. Les Bleus sont bien partis pour se qualifier pour le moment.
Merci beaucoup Tom pour ce flash info. Maintenant une petite pause musicale avec Butterfly de Superbus.
se dessine dans le moindre détail. Un peu sonné par cette foutue bataille. Je m'accroche à tes mots dans le moindre détail.
C'était Butterfly de Superbus.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et nous avons désormais le plaisir d'avoir autour de cette table Violette pour sa chronique actu.
Bonsoir. Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Pour être tout à fait honnête, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les mots justes, à trouver ne serait-ce qu'un début à cette chronique. Comment faire parler l'indicible ? Éclairer la part d'ombre qui couvre des exactions, des crimes plus atroces les uns que les autres. Comment ne consacrer simplement que 3 petites minutes alors qu'il s'agit là d'un arrachement à notre humanité. Mercredi dernier paraissait dans nos salles de cinéma le docufiction de Kauter Benhania, La voix de Hind Rajab. Le 29 janvier 2024, Hind Rajab fuit la ville de Gaza en voiture avec son oncle, sa tante et leurs enfants. Le véhicule est attaqué par l'armée israélienne à côté d'une station essence. Seul Hind survit. Coincée là où gisent les corps de sa famille, bloquée par des tanks. Pendant des heures, elle maintient le contact téléphonique avec des employés du Croissant Rouge palestinien, qui en même temps que de la rassurer, se démènent pour envoyer des ambulanciers sous les décombres de la ville afin d'aller la sauver. Alors que la réalisatrice franco-tunisienne Kauter Benhania s'interrogeait sur le sens de faire des films en plein génocide, la voix de Hind Rajab sera sa réponse. Comme l'explique le titre, c'est la vraie voix de Hind que l'on entend, tout droit sorti du chaos. Présenté à la Mostra de Venise, le film y a décroché le grand prix du jury. La projection a été suivie d'une standing ovation de 26 minutes. Alors que Nuit et brouillard paraissaient 10 ans après la fin de la Shoah, la voix de Hind Rajab résonne et redéfinit la temporalité du travail de mémoire. La démarche éthique de la réalisatrice fait de cette œuvre hybride bien plus que d'un acte de résistance, un lieu de mémoire, où se rencontrent la reconstitution et les archives. Néanmoins, la particularité de ce film réside dans la manière dont elle les appréhende. Kauter Benhania ne désirait pas les considérer comme des archives du passé. Elle avait besoin de raconter ce film au présent. Ce huis clos, situé dans les bureaux du Croissant Rouge palestinien, semble avoir lieu quand tout était possible, là où le sauvetage pouvait encore advenir. C'est pourquoi la réalisatrice décide que les acteurs ne découvriraient la voix de Hind qu'au moment du tournage. Il ne s'agissait pas de jouer, mais de revivre un événement réel. Cette œuvre, bien loin de n'être qu'un simple témoignage, se révèle hommage au cinéma, à son pouvoir, à cet impératif moral de ne pas laisser derrière nous un passé fragmenté. Il ne fallait pas laisser la voix de Hind disparaître sous les décombres et les cadavres de Gaza. Aussi nécessaire que les combats menés par les ONG, le cinéma lutte lui aussi contre l'impunité. Il ouvre des chemins de traverse en nous ramenant à ce qu'il y a de plus humain en nous, cette capacité à ressentir. La voix de Hind doit voyager, toucher au-delà, devenir un outil de changement, explique Kauter Benhania. C'est pourquoi il est projeté ce 4 décembre lors de sessions dédiées à l'ONU. Alors, après la fin du générique, une fois que les lumières de la salle se rallument, on s'aperçoit que tout le monde pleure, que tout le monde reste silencieux. Je crois intimement que l'éloquence de l'image supplante parfois celle du discours.
Là où les manuels d'histoire nous font retenir un contenu, le film, quant à lui, nous fait retenir une voix.
Merci infiniment Violette pour cette belle chronique. C'est maintenant l'heure du Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
C'est ce que t'écris.
Farah, vous recevez aujourd'hui dans votre Zoom Monsieur Nguyen Derhan, président de l'Association des scientifiques et experts vietnamiens, à l'occasion d'un festival de cinéma, c'est bien ça?
C'est ça. Alors, du 5 au 12 décembre, c'est le festival du cinéma vietnamien, qui s'appelle Vietnam Cinéma Itinéraire de Lumière. Alors, bienvenue, Monsieur Nguyen Derhan.
Merci de m'avoir reçu.
Ben on vous reçoit, on commence tout doucement. Alors, ce festival, il est chapeauté par vous, donc l'Association of Vietnamese Scientists and Experts, en partenariat avec l'Association pour la promotion et le développement du cinéma vietnamien et sous le haut patronage de l'ambassade du Vietnam en France. Alors, première question, moi quand j'entends association des scientifiques et experts vietnamiens, je ne m'imagine pas directement l'organisation d'un festival de films. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle dans cet événement culturel?
Alors, je suis président d'abord de l'AVSE Global, qui fédère des scientifiques et d'experts vietnamiens vivant à l'étranger. Et pour le but de contribuer au développement durable du Vietnam, et aussi de faciliter les coopérations entre le Vietnam et le reste du monde. Et l'association était basée à Paris, et donc une association de loi 1901.
Donc c'est sur le volet de la coopération.
Exactement.
Que ce festival s'inscrit. Alors ce festival, c'est une toute première.
C'est la première fois. J'ai même pas cru, même maintenant, puisque l'événement va démarrer dans quelques jours.
C'est ça.
Le 5 décembre, ce vendredi.
C'est ça. Ce vendredi, préparez-vous, parce que ça se passe dans deux cinémas emblématiques de Paris, mais de France, on peut dire.
Du monde.
Le Grand Rex et le cinéma Pathé Palace. Le Pathé Palace. Donc le Grand Rex aura lieu, la grande ouverture, le 5, et la clôture se fera au Pathé Palace le 12.
Tout à fait.
Mais avant de parler d'ouverture et de clôture, c'est 17 longs métrages.
Oui, alors 17 œuvres cinématographiques qui ont été produites, développées, créées depuis 50 ans. Donc qui marquent en fait les 50 ans de la libération du Vietnam, en fait la réunification des deux bords. Donc c'est un symbole de la paix, du développement du Vietnam et du progrès. Parce que le Vietnam s'est beaucoup développé, l'économie se porte très très bien. Cette année, nous dépassons, le Vietnam dépasse les 800 milliards d'import-export, donc d'échanges commerciaux avec le reste du monde.
Et alors, en plus d'une économie florissante, il y a aussi des artistes et des cinéastes de grands talents, avec des films qui ont été primés. Et donc, sur ces 17 films de fiction, il y a aussi des documentaires qui se rajoutent, du court-métrage.
Oui, des courts-métrages également. Et ça permet en fait au public français et international de découvrir un Vietnam qui est nouveau, un visage, nouveau visage, dynamique, tellement ouvert et profondément humaniste, puisque c'est la vie, puisque c'est l'histoire, puisque c'est aussi les destins et aussi les transformations du pays. On a vu la lumière de la paix après les années de guerre. On a vu également les transformations après les réformes profondes qui ont été initiées en 1986. Alors, le Vietnam démarre en fait ces programmes de réformes permettant au pays de se moderniser et se développer. Surtout pour assurer une bonne intégration au monde.
Et alors, ces films, comment ils ont été choisis? Parce que, comme vous l'avez dit, ça cible la période de 75 à 2025, donc aujourd'hui. Comment vous avez fait pour faire ce dur choix de ces 17 films?
C'est pour ça qu'on est très fiers en fait, de notre association avec notre collaboration avec l'Association pour la promotion et du développement du cinéma vietnamien. On a choisi en fait les films qui ont été primés dans différents festivals de films internationaux comme à Cannes, à Busan, en Corée du Sud, à Hawaï, et aussi des primes qui ont reçu des récompenses importantes au Vietnam.
Oui, je pense notamment au film « Quand viendra le mois d'octobre » qui figure parmi le top 18 des meilleurs films asiatiques de tous les temps selon CNN.
Les billets ont été tout acheté ou réservé. Dans tous les cas, il reste des films qui sont très emblématiques et qui portent vraiment des valeurs culturelles et aussi humanistes du Vietnam qui restent à voir et puis il reste encore des places disponibles.
Et alors, ce qui est particulier, c'est que, alors, on découvre évidemment le paysage cinématographique à travers cette sélection de films, mais on découvre aussi le Vietnam parce qu'il y a une espèce de carte interactive où, qui est distribuée selon différentes provinces et villes, entre le nord montagneux, le centre historique et côtier, le sud urbain, sans oublier Quang Minh et Haiphong. Je ne suis pas sûre de ma prononciation.
C'est là où il y a la baie d'Alan.
Donc alors, oui, comment vous avez pensé, en fait, cette proposition de film ? Et en même temps, vous l'avez pensé sur différentes zones géographiques du Vietnam. Expliquez-nous un peu ce choix-là, s'il vous plaît.
Le Vietnam, c'est un pays qui s'allonge sur un peu plus de 2500 km de long. Ouf. Donc, il y a des côtes, il y a des provinces qui sont complètement différentes au niveau culturel. On parle de la même langue, mais culturellement parlant, on trouve quand même des genres originalités, en fait, des points
spécificités.
Spécificités. Et ce qui font que, pour découvrir vraiment le Vietnam, il faut quand même montrer tous ces visages, avec ces différentes différences entre les régions, les provinces. Et parce que dans chaque région, on trouve quand même des histoires intéressantes. On trouve quand même des origines, d'histoires d'amour, d'histoires de guerre parfois, parce que le Vietnam a vécu des périodes très difficiles pour retrouver la paix. Donc il faut quand même une certaine solidarité.
De lutte aussi.
De lutte aussi.
Du peuple.
Et qu'on voit l'esprit du Vietnam qui reste de façon très éternelle et qui se transmet en fait d'une génération à l'autre. Et donc le peuple vietnamien souhaite vraiment montrer un nouveau visage parce que dans les mémoires des gens, de nos amis internationaux, c'est souvent le Vietnam avec la guerre, le Vietnam qui reste encore un pays sous-développé avec la pauvreté. Or, le Vietnam a déjà en fait montré un visage complètement différent. Aujourd'hui, le Vietnam cherche en fait à devenir un pays développé à l'horizon de 2045. Vous voyez, il reste très peu de temps. Donc, ça veut dire que déjà des progrès économiques et sociaux ont été atteints. Maintenant, pour hisser à des niveaux plus élevés en termes de développement, il faut quand même s'ouvrir beaucoup plus, travailler beaucoup plus avec des pays développés. Et surtout, la culture, pour nous, c'est le fil conducteur qui permet de relier à la fois les émotions, le savoir, mais aussi l'identité culturelle d'un peuple.
Alors, en plus de cet enjeu de faire connaître le Vietnam moderne à travers ces films, il y a pas mal d'événements parallèles. Je pense notamment à une exposition qui retrace l'histoire du cinéma vietnamien de 1975 à aujourd'hui 2025. Je pense aussi à des rencontres entre professionnels du cinéma au Vietnam et des professionnels du cinéma ici ou alors des cinéphiles qui peuvent rencontrer justement ces professionnels du cinéma. Un colloque sur la coopération, vous en parlez tout à l'heure, cinématographique, franco-vietnamienne. Et une question qui me taraudait, c'était les enjeux que ces rencontres peuvent avoir. Est-ce qu'il y a, par exemple, suite à ces rencontres et ce colloque, des collaborations qui peuvent se faire ? Est-ce qu'il y en a déjà qui sont en train de se faire entre cinéastes français et cinéastes vietnamiens aujourd'hui ?
Alors, parmi les rendez-vous que vous venez de citer, il y aura présence de beaucoup de cinéastes, producteurs de films, d'autres professionnels du secteur, hein, et puis également toute la communauté intellectuelle vietnamienne à l'étranger qui viendra nous rejoindre en fait sur Paris, des gens qui viennent de Belgique, du Luxembourg, de la Suisse, etc. Et donc il y aura la coopération derrière parce que il y a tellement de projets au Vietnam. On a vu dans le passé beaucoup de projets de production de films conjoints entre la France et le Vietnam. Certains films dans la liste font partie de cette catégorie en fait d'échanges culturels et artistiques entre la France et le Vietnam. Et nous espérons promouvoir encore cet esprit de coopération et pousser encore plus loin ces coopérations-là. Puisque la France et le Vietnam ont décidé que la culture serait un domaine privilégié où les deux pays vont beaucoup plus travailler ensemble.
Et puis une dernière question avant de se laisser, c'est un choix très particulier, que j'honore d'ailleurs, c'est de laisser les billets à 5 euros. Alors, comment a été décidé ce choix d'une politique plus inclusive pour que, voilà, pour que tout le monde puisse peut-être en profiter ?
Ben, nous pensons en fait à la diversité, nous pensons aussi à l'inclusion, nous pensons également au public français et international qui souhaite vraiment découvrir le Vietnam sous un angle vraiment différent qu'on a pu voir ailleurs et précédemment. Il faut insister sur le fait que c'est la première fois qu'on organise ce type d'événement à Paris, en France et en Europe. Et donc on ne va pas s'arrêter
là. Donc c'est historique.
Alors, cette semaine du cinéma vietnamien à Paris fait partie d'un projet culturel plus ambitieux que ça. Et donc, on aura d'autres événements qui vont continuer cette belle expérimentation. Il y aura la musique, l'art, il y aura aussi la gastronomie également, je dirais, d'autres domaines de culture et artistique qui vont être développées d'ici quelques mois.
Et je vous remercie. Et alors, pour ceux qui viennent d'être titillés par cette dernière information, n'hésitez pas à aller regarder Vietnam, la symphonie de l'amour, pour voir justement tous ces projets culturels et tous ces arts mis en avant autour de l'histoire du Vietnam.
Merci beaucoup.
Merci à tous les deux pour cet échange. Donc on le rappelle, la semaine du Vietnam Cinéma, c'est du 5 au 12 décembre prochain, avec de nombreuses projections, événements et même un colloque, je crois, c'est bien ça. Le tout au Grand Rex et au Pathé Palace, donc pensez à réserver vos places.
Thanks.
C'était Mrs. de Dominique Fiqueux.
La matinale de 19h.
Et Fabrice, c'est désormais vous qui êtes avec nous autour de cette table et vous vouliez nous parler de musique, si je ne me trompe pas.
Exact. Ce soir, je parle d'Oscar and the Wolf. Je parle donc d'Oscar and the Wolf. Pourquoi ? Parce que nous sommes le 1er décembre. Donc je parle de Oscar and the Wolf parce que nous sommes le 1er décembre, qu'il fait froid et gris, que je n'ai pas de taf et que c'est une bonne excuse pour écouter de la musique plutôt sombre et envoûtante. Vu qu'en ce moment je binge le premier album d'Oscar and the Wolf Entity sorti en 2014, je me suis dit que j'en ferais bien une chronique. Alors d'abord, j'aimerais vous présenter Oscar and the Wolf. Il y a celles et ceux qui présentent Oscar and the Wolf comme le surnom musical de l'artiste belge néerlandophone Max Colombi. D'autres comme Genius disent qu'il s'agit d'un groupe électro pop composé de Ozan Bozdag au clavier, de Claudio Arduini à la batterie, de Jasper Bulinck à la guitare, en plus de Max Colombi au chant. En tout cas, Oscar and the Wolf, c'était Strange Entity, donc le quatrième titre que vous avez entendu en fond sonore au début de cette chronique, mais Oscar and the Wolf, c'est aussi ça.
Somebody watching now, control the heartbeat, take me under.
Samba Somebody Wants You, le septième album de, le septième titre de l'album. Dans les deux cas, vous êtes plongé dans un univers sombre, hivernal, mais avec une voix qui vous accompagne, apaisante à écouter. Et puis cet accord musical des instruments qui fait du bien. Sans oublier que ce rythme peut donner à certains l'envie de danser, non? J'en entends certaines et certains me dire décembre, froid, nuit et ambiance sombre. Franchement, t'es sérieux? Et bah pour vous, j'ai ce qu'il vous faut. Le dernier titre de l'album, Kill You, qui est quand même plus lumineux. Je vous recommande très chaudement Entity du groupe Oscar and the Wolf, et si vous êtes curieux, parcourez la discographie du groupe.
Merci infiniment Fabrice pour cette suggestion musicale. C'est déjà la fin de votre quotidienne sur Radio Campus Paris. Merci à nos invités Michel Kokoreff, Monsieur Nguyen Dehan. Merci également aux bénévoles qui ont participé à cette matinale. Mathias, Farah, Violette, Tom et enfin Fabrice. Merci vous aussi et Chloé à la réalisation. Et merci évidemment à Jeanne et Aude qui permettent de coordonner cette matinale ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de Radio Campus Paris. Et enfin, merci à vous d'être à l'écoute tous les jours.